Je vais d'abord présenter Audrey Célestine, puisque vous êtes là, c'est samedi, il y a plein de choses à faire, on est à Paris, mais vous êtes là, c'est magnifique. Vous aviez parlé d'appétence, il y a même une espèce de gourmandise comme ça à venir vous écouter, tellement le sujet que vous abordez est nôtre, hein, la question de l'identité et de, comment dire, vous avez parlé de fabrique, mais en effet, elle, c'est le lien qu'elle fait entre ethnicité, identité et mobilisation collective. Donc, il y a aussi une question de pouvoir, de relation avec l'État et les pouvoirs publics qui est intéressante. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, Audrey Célestine, c'est comment vous êtes venue, comment vous est venue l'idée de ce livre et surtout de la comparaison que vous faites entre les Portoricains à New York, la manière dont ils s'organisent, ils sont représentés et ils manifestent publiquement, et les ultramarins en France. Il m'a semblé avoir vu que c'était pas anodin du tout, que c'était Baltimore 2015. Comment ça part ?
Alors comment ça part ? Je pense que ça part largement du fait que je suis martiniquaise, que j'ai grandi en Martinique à une période pendant laquelle la question, la discussion sur l'identité est très forte. C'est des moments de revalorisation et de construction identitaire, de valorisation, revalorisation du créole, d'action culturelle autour de l'identité. Et donc, je grandis, je baigne un peu dans tout ça. Donc, pour moi, tout ça, c'est normal. Et en même temps, j'ai l'impression que dans l'espace public, on ne parle que d'identité, alors que moi, j'ai des tas d'autres enjeux qui me semblent assez centraux. Donc, en fait, j'avais ce rapport à la fois de normalité avec les enjeux identitaires, avec personne pour nous dire que c'est du communautarisme à cette période. Et en même temps, moi, j'étais très, très marquée dans les années 90 par l'espèce d'épidémie de... Bon, j'appelle ça une épidémie de crack qui est à Fort-de-France. Moi, je suis de Chelcher, Fort-de-France. Je suis très marquée par ça, parce que ça touche des proches, ça touche mon plus jeune oncle. Et c'est des choses dont je vois l'effet tout à fait destructeur pour les familles. Et je me dis, qu'est-ce qu'ils sont tous à nous emmerder avec l'identité. C'est bon, on sait ce que c'est notre identité. Et puis ces problèmes-là, ces vrais enjeux de santé publique, on n'en parle pas. Donc j'avais ce rapport un peu ambivalent, déjà, à la question de l'identité. Et puis quand je suis venue faire mes études ici, j'ai eu la chance de pouvoir partir en fait au bout de 2 ans aux États-Unis et voilà, où j'ai fait des cours, où j'ai découvert que ce qui me semblait être très très logique, les noirs, les blancs aux États-Unis, ça a l'air très simple, de me rendre compte qu'il y avait aussi tout un tas de subdivisions dans ce pays-là. Et je me suis dit, ça peut être intéressant de travailler sur les États-Unis, sur ces enjeux-là, parce que c'est une manière indirecte de parler de la France sans non plus être, tout en continuant à être pris au sérieux. Donc quand je suis revenue, et puis il y a autre chose, c'est qu'il y a une partie des groupes sur lesquels j'ai fini par travailler, des associations dites d'originaires d'outre-mer, et qui étaient en fait dirigées par des personnes qui venaient de Martinique et de Guadeloupe, qui prétendaient parler au nom de la communauté antillaise, à laquelle j'étais censée associée. Appartenir. Sauf que je ne me sentais pas très représentée par ces gens. Et du coup, j'ai commencé à me poser la question de... Mais c'est quoi finalement la représentation? C'est quoi mon lien à ces gens? Est-ce que je fais partie ou pas de la communauté que ces gens ont envie de représenter? Pourquoi est-ce que j'ai cette distance-là par rapport à ce qu'ils peuvent dire? Et pourquoi en même temps les enjeux qu'ils soulèvent sont intéressants pour moi? Du coup, voilà, j'étais un peu partagée entre tout ça. Et puis très sincèrement, c'est mon directeur de... celui qui allait devenir mon directeur de thèse. Parce que je me disais, est-ce que je compare les Caribéens aux États-Unis, les Antillais en France? Comment je fais ça? Et il me dit, mais comparez aux Portoricains, parce que dans les deux cas, il y a la question du rapport colonial-postcolonial. Dans les deux cas, c'est des gens qui migrent vers la métropole, mais pour lesquels la question des papiers ne se pose pas. Enfin, ils ne vont pas se mobiliser pour avoir la nationalité. Ils ne vont pas se mobiliser. C'est une période aussi de forte mobilisation, de sans-papiers, des undocumented aux États-Unis. Pour eux, la question elle est de la citoyenneté est censée être réglée, sauf qu'elle ne l'est pas. Parce que dans la migration, il y a tout un tas de choses qui se passent, mais au moins, tu évacues cette partie-là, la partie formelle, parce que finalement, derrière le statut, derrière la citoyenneté formelle, il y a tout ce qui relève du quotidien. Et donc voilà.
Donc, juste pour continuer sur la présentation, donc vous êtes politiste, Vous allez demander, je suis sûre, vous allez demander les nuances avec d'autres mots qui pourraient être politologue, sociologue, etc. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Lille et vous travaillez principalement sur l'État en Outre-mer, les questions raciales en France et aux États-Unis. La comparaison, donc, c'est comprendre ce qui est binaire, ce qui apparaît comme binaire et qui ne l'est pas, ou ce qui apparaît complexe et qui est... Enfin, c'est quoi la question?
Alors, déjà, pour les États-Unis, c'est clair que c'était pour montrer tout ce qui n'est pas binaire.
Voilà.
De manière très très concrète, aux États-Unis, j'étais dans une fac qui était censée être une fac un peu conservatrice, qui n'avait pas beaucoup, qui avait que 3 000 étudiants, c'était pas une énorme université.
Hopkins,
C'était à Johns Hopkins, qui était une fac privée un peu élitiste, et qui était considérée comme étant une fac un peu réac, qui n'avait pas beaucoup de noirs, sauf qu'ils étaient 300. Moi, je suis rentrée à Sciences Po, on était deux. Du coup, je dis, ah bon, c'est un peu réac, mais quand même, c'est pas mal. Et puis, en fait, donc moi, je vivais avec trois Afro. Quand je les ai rencontrés, on m'avait mise dans un appartement, c'était, ah, bah, je vis avec trois Afro-Américaines. Bon, j'ai rencontré la première, puis la deuxième, puis la troisième, et puis en discutant avec elle,
pas du tout.
je me rends compte qu'il y a deux qui sont d'origine jamaïcaine et une qui est d'origine nigériane. Et en fait,
Africaine, donc, oui.
je discute avec l'ensemble, enfin je pense que j'ai rencontré quasiment tous les étudiants noirs de l'université pendant cette année-là, et j'ai rencontré un Afro-Américain qui venait d'Alabama, qui avait 10 ans de plus que nous, qui avait travaillé pendant des années pour pouvoir reprendre ses études en philo, et ça c'est important parce que toutes les autres, elles faisaient des études pour devenir médecin, devenir ingénieur. Alors moi déjà je faisais des sciences sociales, c'est complètement loufoque. C'était leurs parents avaient migré, et c'est là, on ne fait pas d'études inutiles, genre de la socio, quoi. On fait un truc pour avoir un travail, pour pouvoir.
Fait de l'informatique.
Voilà, on fait engineer ou pre-med, et voilà. Et donc, c'est le type qui était plus âgé qui venait. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'intéressant là. Et j'ai commencé à réfléchir à ça, à me dire, mais parce que Baltimore, c'est aussi 70% de noirs, sauf que la fac, c'est une espèce d'isola de richesse, et puis 3 rues plus loin. Bah, on a ce qu'on appelle le ghetto, on a 70% de noirs qui, eux, ne mettent pas les pieds à l'université, surnommés dans la ville la plantation, puisque c'est une ancienne plantation. Et donc tout ça, quand même, je me disais, il y a beaucoup de choses là. Je pense que la question raciale est un petit peu plus complexe que ce qu'on pense, y compris aux États-Unis. Et puis comme pour beaucoup de gens qui ont travaillé sur ces, qui ont essayé de travailler sur ces questions en France. Faire de la comparaison est une manière de parler de la France
En creux.
sans s'aliéner les potentiels directeurs de recherche, etc.
En creux, à faire apparaître les différences, quoi. Justement, cette comparaison. Puisqu'on est au début de la discussion, est-ce que vous pouvez déjà nous dire, vous avez déjà commencé à le faire tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on revienne, notamment seulement en termes de statut, mais sur la représentation ou la présentation de ces deux communautés que vous comparez. C'est-à-dire, qu'est-ce qui distingue ou qui rassemble les Portoricains de New York, dans le Bronx, ou les ultramarins en France, à Paris, pour ne pas,
En
en
Île-de-France.
Île-de-France.
Alors, peut-être que je vais juste revenir un peu
Inverser.
sur la démarche et sur bah, qu'est-ce que je suis allée regarder. Parce que moi, j'ai d'abord fait un mémoire à l'époque, ça s'appelait un DEA, sur qu'est-ce que c'est que la communauté antillaise, est-ce que ça existe? Et donc, ça s'appelait la troisième île en question. Et du coup, j'allais interroger des gens en leur demandant, des gens qui étaient soit nés ici ou qui avaient passé la plus grande partie de leur vie ici, en disant, qu'est-ce que c'est pour vous être antillais Alors, je ne sais plus si je vais dire en France hexagonale ou en métropole, parce que la plupart des gens disaient métropole. Et du coup, j'avais travaillé là-dessus, sur à la fois des gens qui mettaient très fortement à distance l'idée de communauté, et qui en même temps racontaient des lieux, les associations, des clubs sportifs, des restaurants, la famille, comme lieu
Oui, parce qu'il n'y a pas de
communautaire.
statistiques en France, on ne peut
Non,
pas
non.
dire.
C'était vraiment très qualitatif, vraiment pour les gens, quand on leur dit, ils disaient, oh non, moi je ne fais pas partie de la communauté antillaise, mais bon, si je devais la désigner, je dirais ma famille, ceux qui parlent créole, c'est ce qu'on mange le dimanche ou quand il y a un baptême ou une communion. Et du coup, j'avais essayé d'identifier c'est quoi les lieux de la communauté pour des Antillais ordinaires, des gens qui sont d'origine antillaise, mais qui, et puis qui ont tendance à minimiser des expériences de racisme, à dire oui, ça m'est arrivé, ou qui vous disent oh non, moi j'ai jamais rencontré de racisme, et qui vous expliquent à quel point ils ont eu des difficultés à trouver un logement. Et du coup, je me dis, mais ça veut dire quoi le fait qu'on minimise comme ça ce genre de choses et tout? Et ensuite, pour la thèse, ce que j'ai été regarder, c'est qui sont les gens qui, eux, vont rentrer dans des collectifs et vont se mobiliser en tant qu'entillés. Mais en fait, je remarque qu'ils ne se mobilisent pas forcément comme entiers. Ils vont se mobiliser comme originaires d'outre-mer, alors que jamais, au quotidien, ils se désignent comme un ultramarin. Je connais personne qui dit « je suis un ultramarin ». Ça n'existe pas. Mais dans les arènes publiques... Ah, vous dites ça
non.
Ah, vous en connaissez oui, qui sont, oui, qui sont jeunes, peut-être qu'il y a un truc générationnel. Ils sont c'est ça. Et, mais j'avais l'impression que c'était un terme qui avait du sens dans certaines arènes, à l'Assemblée nationale, dans des réunions publiques et tout, mais que pour les gens...
Institutionnel.
Voilà, que c'était une catégorie politico-administrative, mais qui n'avait pas de sens pour les gens.
Parce que ça ne veut rien dire, ça veut dire juste
c'est ça.
Loin.
Mais les associations, voilà, qui... Oui. Prétendait représenter une communauté, okay. Mobiliser ça. Donc au départ, moi, je pars de ce que j'analyse sur, sur le côté antillais. Et en connaissant beaucoup plus, parce que du coup, ces lieux de la communauté, entre guillemets, et ces associations, je les connais, elles me sont facilement accessibles. Quand je décide de partir pour faire mon terrain aux États-Unis, je ne sais pas exactement ce que je vais trouver. Je m'attends à faire du terrain en espagnol, donc du coup je révise un peu. Et donc je passe d'associations qui sont, en gros, qui n'ont pas de local, qui n'ont pas de salariés ici, qui sont assez récentes. Je vais de l'autre côté de l'Atlantique et c'est le responsable des relations publiques qui me reçoit. Alors j'étais là, mince, ça ne va pas marcher, je ne sais pas comment.
Le décalage
Le décalage était. J'avais quelques travaux à peine. Je nuancerai la chose maintenant, mais j'avais l'impression qu'il y avait. Quelques articles qui existaient sur le sujet pour la France, toujours les mêmes noms qui revenaient, hein, Michel Giraud, Claude Valentin-Marie, Fred Constant, entre autres. J'arrive là-bas, il y a un centre d'études portoricaines avec 4 salles comme ça remplies de bouquins sur l'expérience portoricaine aux États-Unis. Je me disais, non, ça ne va pas le faire. Cette comparaison n'a aucun sens. Mais en fait, une comparaison, ça ne va jamais de soi. Une comparaison, ça se construit. Et en rentrant dans les bouquins, en essayant de comprendre, en allant interviewer les gens, je vais voir plein d'associations, plein de collectifs, je me rends compte que finalement, ce que j'observe en France, c'est passé pour les Portoricains dans les années 50-60, qu'il y a un décalage en fait, et qu'il y a plusieurs décennies, elles en étaient à ce point-là, ces associations-là, dans le rapport aux administrations, et du coup, c'est devenu un travail qui était beaucoup plus fondé sur les archives, même si j'ai fait beaucoup d'entretiens. Dans du côté américain, et j'ai assumé de faire une comparaison qui porte sur des processus plutôt que dans les années 2000, les Antillais et les Portoricains, non. C'est des trajectoires collectives que j'étudie, des trajectoires collectives avec des choses qui ne se passent pas exactement au même moment dans les deux pays, mais qui m'ont permis, en fait, le cas américain m'a vraiment permis de saisir des choses du cas français. Alors, je ne sais pas si peut-être je suis un peu long, mais...
Non, mais tout à fait. Sous l'idée de regroupement selon l'origine, on n'a pas la même vision à telle époque en Europe ou même en France qu'aux États-Unis.
Tout à fait. Oui. Et même s'il y a des grosses différences, par exemple, moi, une chose qui a été très importante, c'est d'étudier la manière dont les Portoricains, par exemple, ont vraiment œuvré à se détacher de toutes les autres populations dites hispaniques ou les latinos. En gros, c'était de dire... d'affirmer une spécificité portoricaine et de dire non, mais on n'a pas les mêmes problématiques que... Surtout à partir du moment où il y a une massification de l'immigration en provenance de l'Amérique latine à partir du milieu des années 60, disent non, mais nous, c'est pas... Nous, on est issus du colonialisme américain, notre situation, elle est beaucoup plus proche de celle des Afro-Américains, mais on n'est pas non plus les Afro-Américains parce que c'est quand même une population très stigmatisée, donc on veut bien être à leur côté, mais on n'est pas eux. Et en fait, moi, ma thèse, je l'ai faite entre 2003, 2004 et 2009, et je constate, en partir de 2005, quand il y a la réémergence d'une question noire en France, que les collectifs que j'étudie sont dans un rapport quand même très « oui, mais nous, on n'est pas noirs de mise à distance de tout ça, dans des processus qui ressemblent quand même beaucoup aux portoricains, qui mettaient à distance un label qui était englobant, et qui, contre lequel ils voulaient se battre, ils ont globalement échoué. Hein. » du coup, c'était intéressant de me dire, y a des choses qui se passent sur un terrain et puis qui m'informent sur ce qui se passe sur le terrain des collectifs ultramarins, entre guillemets, antillais, en fait, que j'étudiais ici.
Pour rester sur ce sujet-là, vous diriez que le distinguo que les Portoricains ont tenu à faire entre eux et les autres groupes minoritaires, est-ce que ce serait le même distinguo entre les originaires d'outre-mer les Africains en France ou...
Pas exactement, il est même... Enfin,
Parce qu'au début des années... Enfin, non, dans les années 2000, il y a eu quand même des ouvrages qui sont parus en France avec le label noir, je pense à Ndiaye,
à Pape Ndiaye,
à
bien
Pam
sûr.
Ndiaye, au livre du journaliste Stephen Smith, enfin, toute cette catégorisation.
Ah mais alors, moi, ce qui était très drôle et qui fait que c'est important de faire du travail de terrain, que c'est important d'aller voir les gens et de pas juste regarder leurs paroles publiques, mais voir un petit peu ce qui se passe, c'est quand on fait du terrain, qu'on va dans les réunions, qu'on écoute les discussions informelles, et puis quand les gens commencent à voir votre tête assez souvent, bah on vous parle un peu librement, et puis en plus, quand vous êtes une jeune Martiniquaise, vous venez là, on vous voit souvent, c'est que vous êtes intéressée par les questions. Donc du coup, on vous intègre complètement.
Vous êtes une sœur, vous allez nous aider.
Voilà, je suis complètement dans le truc, je pourrais reparler de ça. Et du coup, ce qui était assez marrant, c'est de voir les communiqués de presse au vitriol sur le cran est en train de menacer la République en faisant surgir la question noire en France, alors que les gens dans les discussions, dans l'association, se désignaient comme noirs, ou même certains militants étaient tout à fait opposés au fait de mettre à distance ainsi une question noire, mais préféraient ne rien dire en se disant bon, quand même, ça bouge, je dis rien, mais. Et du coup, ça, c'était de voir qu'il n'y avait pas le même discours dans l'arène publique et à l'intérieur des associations, c'était intéressant. De voir que ma propre présence impliquait qu'il n'y avait pas les mêmes discours non plus. Il y a un leader associatif que je ne vais pas citer qui. Avec lequel j'avais un entretien de prévu, et juste avant moi, c'était une autre doctorante qui a fini sa thèse en 2006 et qui faisait une thèse sur les leaders associatifs antillais en région parisienne. Très belle thèse, elle s'appelle Leïla Vull. Et Leïla, je la cite beaucoup, ouais, parce qu'après, elle n'a pas continué la carrière académique, mais c'est le travail le plus important sur le monde associatif antillais qui a été fait, c'est hyper rigoureux. Et en fait, on se croise dans les escaliers, donc elle sort et moi j'y vais. Et elle n'est pas antillaise. Et on s'est réunis, on s'est rejoints à la fin de la journée pour comparer nos notes d'entretien. Et donc moi, j'avais eu droit à « Mais nous, notre identité, il faut qu'on se défende, encore quand il y est, hein, dont la plupart, machin, les Noirs, etc. » Et elle avait eu « Mais nous, en tant que citoyens français, l'universalisme, etc. » Mais c'était le même jour, littéralement le même jour. Et du coup, il lui a pas dit la même chose. Et c'était vraiment, à moi, il pouvait dire un certain nombre de choses en se disant qu'il va m'inclure dans, qu'il va avoir une forme d'empathie, mais en même temps, à quelqu'un qui est identifié comme extérieur, on va pas dire la même chose parce que on est dans des relations très proches avec le pouvoir. Et ça, c'est quand même une des choses qui était importante, c'est que les collectifs que j'ai étudiés, et je ferai sans doute pas le même travail aujourd'hui, les collectifs que j'ai étudiés qui étaient vraiment sur ce truc de représentation d'une population composée d'abord d'Antillais puis d'originaires d'outre-mer, sont des associations qui sont extrêmement proches du pouvoir, qui très facilement rencontrent le ministre des Outre-mer, qui ont leurs entrées et qui du coup, elles peuvent pas avoir un discours comme celui-ci dans toutes les arènes. Elles vont l'avoir avec une doctorante en sociaux, mais elles vont pas l'avoir dans une réunion à la garden party du ministère des Outre-mer.
Peut-être que je pose des questions dans le désordre, mais ce que vous dites me pousse à vous poser tout de suite cette question-là, puisque finalement vous étudiez l'intégration. Votre travail, votre sujet, c'est l'intégration. Comment expliquez-vous que le mot communautarisme soit aussi connoté sociologiquement, politiquement en France, alors que, vous le dites quelque part dans votre livre, il y a quand même une incitation à reconnaître ou à valoriser la différence culturelle en ce qui concerne les Outre-mer.
Non, mais c'est là toute la tension, c'est-à-dire que globalement en France, on aime bien parler de ces communautés qui seraient ou de ces populations qui seraient communautaristes sans jamais voir la main de l'État dans tout ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même en grande partie des choses qui sont organisées par les pouvoirs publics et pour moi, en tout cas, voilà, moi, c'est après plusieurs années de recherche, cette idée de communautarisme pour moi relève largement du fantasme, mais en tout cas, un regroupement à partir de la communauté est une chose qui est largement organisée par les pouvoirs publics, alors même que ce n'est pas une chose qui est dite de cette manière-là en France. Et aux États-Unis, ce que j'ai trouvé assez parlant et assez intéressant, c'est que bah, très souvent, il y a une injonction à l'assimilation qui est extrêmement forte. On a l'impression que c'est une espèce d'univers des communautés. Or, pour les portoricains, par exemple, l'injonction qui leur est faite et contre laquelle ils se rebellent, c'est « vous faites pas de bruit, vous vous intégrez, vous arrêtez de parler espagnol ». Et il y a une injonction à l'assimilation qui a été extrêmement forte. Et au bout d'un moment, les types disent « mais les mecs sont complètement en décalage avec les problèmes très importants qu'on rencontre dans nos communautés, communautés au sens nos quartiers, parce qu'il y a des formes de ségrégation urbaine qui sont renforcées après la fin de la ségrégation officielle ». Et du coup, je me disais « mais c'est fou, comme en France, on va du coup doter les populations de représentants. Donc les leaders associatifs sont censés être des représentants de la communauté antillaise en France ». On dit depuis maintenant quelques temps des originaires d'outre-mer. Les leaders associatifs sont désignés comme tels et ont des relations privilégiées avec le pouvoir. Et il y a des formes d'organisation, de subvention, d'attribution de rôles de représentants donnés à des gens dont la plupart des Antillais ne connaissent pas le nom. Et qui pour autant, et ça c'est une autre partie du travail qui n'est pas dedans mais que j'ai faite avec d'autres collègues, au moment des élections présidentielles sont largement consultés pour la fabrique des programmes électoraux. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est très très paradoxal, c'est-à-dire qu'on a des gens qui, et c'est toute la question de la représentation, qui finalement, qui est une question tellement classique de politique et de sciences politiques, c'est bon, bah, qui représente-nous, au nom de qui est-ce qu'on parle, et pourquoi est-ce qu'on, quelle est la légitimité à parler au nom d'un groupe ?
Est-ce qu'il y a un fondement historique à cela qui serait, par exemple, l'opposition que l'on fait parfois entre les lois de 46 de départementalisation et d'assimilation et puis une revendication qui vient dans les années 2000 d'une différence ou d'une mémoire spécifique, notamment de l'esclavage?
Alors, moi, le fondement que je vois au fait que les collectifs sur lesquels je travaillais étaient très proches avec le pouvoir, j'avais un peu l'impression que c'était une forme de nouveauté, hein, que c'était les collectifs. Et donc, pour les citer, moi, j'ai travaillé sur le collectif d'hommes et sur le comité marche du 23 mai pendant la thèse, du 23 mai 98, même si j'ai rencontré d'autres associations, mais c'est les deux sur lesquelles j'ai fait le plus de terrain et auprès desquelles j'ai fait le plus d'entretiens. Et du coup, j'avais l'impression que c'était nouveau. Puis, en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que ce qu'on voit de nouveau, pas si nouveau que ça. Et qui avait des formes de nouveauté dans les formes d'action qui étaient mises en avant et dans le fait de faire en fait des mobilisations qui soient des mobilisations plus nationales. Jusque-là, il y avait des choses qui étaient quand même très locales. Par contre, ce qui n'était pas nouveau, c'était la proximité avec le monde institutionnel et le monde politique. Parce qu'en fait, une bonne partie de la population, donc venue des Antilles et quand même venue par le Bumidom, donc c'est une politique de migration organisée, organisée par l'État.
Le bureau des migrations.
C'est ça. Et qu'en fait, alors, bien sûr, il y a la moitié de la migration qui s'est faite, en tout cas pendant la période qui s'est faite hors Bumidom, mais il y a quand même, voilà, près de 200 000 personnes qui viennent avec le Bumidom, mais elles ne viennent pas, on ne leur paie pas juste un billet. On les canalise. Alors ça marche pas pour tout le monde, ça c'est une des choses qu'on voit dans les archives du Bumidom, c'est que il y a plein de gens qui se font payer le billet et puis disparaissent du radar, et puis il y a plein de gens qui sont, et donc dans le travail d'encadrement de cette population, il y a le financement d'un certain nombre d'associations, d'un certain nombre de collectifs, dont par exemple le Casodom, qui est une association qui commence à exister avant la mise en place du Bumidom, mais qui très vite devient le service social du Bumidom. Et donc le Casodom, par exemple, dans les années 60, va recevoir, accueillir les primo-arrivants, organiser des visites à l'hôpital pour les enfants malades. À partir des années 70, et Sylvain Patieu travaille dessus en ce moment, organise les voyages vacances. Ça devient une agence de voyage dans les années 70. Quand on va dans les archives départementales de la Martinique, on trouve des petites choses assez rigolotes sur le Casodom qui concurrence le Bumidom et qui écrit aux conseils généraux qui financent en partie le Bumidom. Il faut quand même savoir que les collectivités locales financent largement l'institution et qui disent non mais le Bumidom en fait il sait pas faire, c'est nous qui faisons toute l'action sociale, filez-nous la subvention parce que franchement nous on est beaucoup mieux, en plus on connaît bien les populations parce que c'est un peu nous, alors que c'est voilà, là c'est la petite bourgeoisie antillaise qui était là dès les années 50. Bon, ça c'est juste pas sûr qu'ils aient conscience qu'il y ait ça au Casodom dans les archives, mais du coup ils sont dans ce type de relation là à partir des années 80 quand le Bumidom est remplacé par l'ANT. L'ANT, une grande partie de son travail c'est de filer des subventions aux associations. Quand la délégation à l'outre-mer de la mairie de Paris commence, elle attribue, elle fait tout un tas de choses, mais elle subventionne des associations et puis elle monte des comités dans lesquelles, de consultations sur un certain nombre de domaines, la culture, le sport, l'animation sociale, etc., dans lesquelles des leaders associatifs vont, vont siéger. Et du coup, il y a quand même un rapport qui se fait un peu normal et qui a son utilité. Par exemple, une bonne partie de l'action du Bumidom, voilà, c'est, y a toute la légende noire autour de, la, de l'association, mais le Bumidom est quand même une organisation, une institution relativement faible, qui n'est pas très dotée financièrement, et qui, en plus, donc, fait venir des gens, et on se rend compte au bout d'un moment, par exemple, ils n'arrivent pas à les loger. Et qu'on découvre, dans les rapports du Bumidom, ils découvrent un truc qui s'appelle la discrimination. Et donc, ils essayent de convaincre les sociétés HLM. Donc, le Bumidom sert un peu de représentant en allant voir, parfois en passant par le Casodome, et puis parfois en y allant directement, en essayant de dire aux gens, aux sociétés HLM, non, mais c'est des citoyens français, en fait, il ne faut pas les discriminer, ou il faut être plus sympa avec eux, etc. Mais du coup, ce rapport avec les assos, elles sont largement liées au fait que bah, c'est une manière d'encadrer cette population qui vient dans des conditions compliquées.
Ok. Et donc, la question de la migration, elle est super importante, puisque c'est aussi ce que vous comparez entre les Portoricains et les Domiens, Tomiens, Comiens de France. On ne sait plus quoi dire, comment dire. Est-ce que, de la même manière, il y a une dissociation des intérêts entre ceux qui sont donc dans la métropole et puis ceux qui sont restés sur place et cette dissociation des intérêts, est-ce que ça influence, donne du poids, ça a quoi comme conséquence sur la relation avec l'État, fondamentalement?
En fait, une bonne partie, le monde associatif antillais notamment, il n'est pas composé uniquement de gens comme le Casodome ou la MITAG à ce moment-là. C'est beaucoup de, donc c'est à la fois celles-là qui sont, même socialement, quand on voit les gens qui sont dans ces associations, c'est des gens qui ont des diplômes, diplômes du supérieur, etc. Mais il y a aussi toutes les associations qui sont des associations d'extrême-gauche, associations nationalistes, d'étudiants extrêmement politisés, mais qui en fait sont beaucoup plus, pas exclusivement, mais beaucoup plus tournés vers la question politique et la question nationale au pays que sur le fait de rester ici et de se battre pour les conditions de vie ici. Donc c'est vraiment quelque chose qui va durer un moment. Et le milieu associatif va être principalement sur ici à partir des années 80, notamment parce que la décentralisation, elle permet tout un tas de possibilités de financement, parce qu'il y a un effondrement du secteur nationaliste aussi dans ses revendications à cette période-là, là-bas.
L'un entraînant l'autre, décentralisation entraînant une baisse de
la... Ah oui, je pense que les effets de la décentralisation sur la question politique aux Antilles, enfin, je pense c'est une question passionnante, et c'est une chose qu'il faudrait... ce que ça fait, en fait, de, à la fois... Moi, je trouve que ça a des effets... Bon, ça a des effets à la fois de rapprochement, en théorie, du pouvoir au niveau local, mais ça a des effets de dépolitisation aussi très fort, de technicisation du débat public. Ça c'est encore autre chose. Mais du coup, l'intérêt pour les conditions de vie dans l'Hexagone devient beaucoup plus fort à partir des années 80.
Voilà.
Mais aussi avec des injonctions. Enfin, le truc, c'est que... En fait, moi, je fais partie d'un groupe de gens qui font de la sociologie du monde associatif, et on ne regarde pas l'association comme quelque chose qui serait complètement déconnecté de l'action de l'État. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'associations qui agissent dans un certain nombre de domaines, qui sont des domaines qui, comme par hasard, sont aussi des domaines de plus en plus délaissés par l'État, c'est pas complètement un hasard. Et du coup, regarder le monde associatif, c'est en partie regarder aussi l'action de l'État. Donc à partir du moment, et il y a clairement une injonction qui est faite à un certain nombre d'associations à partir des années 80, autour de... insertion culturelle, promotion du vivre ensemble, promotion d'une forme de multiculturalisme à la française. Et c'est ce qui se passe aussi avec les collectifs qui se multiplient à partir des années 80.
Oui, mais restons sur ce sujet-là parce que je trouve ça super intéressant. Dites-nous comment évolue cette prise de parole que vous notez à partir des années 80 jusqu'aux années 2000, jusqu'aux lois, comment ça se fait, cette visibilité des personnes originaires d'outre-mer, comment à partir des années 80 on arrive jusqu'à certaines lois, jusqu'à une prise de conscience peut-être plus forte? de la question.
Moi, je vais reprendre, je vous parlais tout à l'heure de Leïla Avul, et moi, je vais reprendre une typologie qu'elle a établie, que je nuance un peu pour la période plus récente, mais que je trouve extrêmement utile. En fait, en analysant les leaders associatifs des années 60 aux années 90, elle montre qu'il y a plusieurs types, qu'il y a un peu les notables. Donc, c'est des gens qui ont des collectifs un peu comme le Casodome, qui sont plutôt des gens diplômés du supérieur, mais plutôt bac plus 5, ou qui sont des hauts fonctionnaires, et qui sont plutôt, qui au moment, dans les années 60-70, étaient pro-départementalisation, étaient pas mal dans les réseaux gaullistes, etc. Donc il y a ces gens-là. Donc le Casodome est un exemple assez fort. Il y a des associations qui sont souvent dirigées par des femmes, qui sont des associations qui vont des associations socioculturelles, qui sont pour le coup des gens qui sont beaucoup moins dotés en capitaux culturels, économiques, etc., mais qui sont repérées et qui sont extrêmement, parce qu'elles sont extrêmement actives. Des femmes qui vont faire une association de créoles, de danse et de soutien scolaire, ou des associations comme ça qu'on trouve beaucoup en région parisienne, souvent menées par des femmes, mais qui sont hyperactives, voilà, qui font tout le temps des trucs, qui organisent tout le temps des choses. Et puis des associations que Leïla Avul, et c'est là que je suis peut-être moins
que
je nuance un petit peu, des associations qu'elle va désigner comme des associations plus... il me semble qu'elle les désigne comme identitaires, mais qui sont le fait de gens qui sont beaucoup plus sur des associations de transmission du savoir, valorisation du créole. Je pense qu'un des exemples qu'elle a en tête, c'est quelqu'un comme Tony Mango à Créteil. Des gens qui vont être dans une valorisation de formes non folklorisées du patrimoine culturel antillais.
On parle d'images, là ?
On parle, oui, mais qui vont promouvoir ça, qui vont être dans un truc... Voilà, ils veulent faire... Ils sont dans un travail de valorisation.
D'images médiatiques, de représentation.
C'est ça. Et du coup, elle avait tendance... Mais qui sont, du coup, un peu politisés, mais un peu plus à distance du pouvoir que ne le sont les autres. Parce que, par exemple, dans les associations où il y a ces femmes qui sont... très actives, c'est pas que des femmes, c'est des gens qui vont finir par être souvent récupérés par le pouvoir local. On va leur demander, tiens, tu veux pas être sur une liste électorale, parce que quand même tu es très présente au niveau associatif, etc., machin. Et des gens comme l'association Héritage à Créteil ou d'autres comme ça, sont des associations qui vont vraiment être sur le truc socioculturel et peut-être un peu plus à distance de ces enjeux-là. Et en fait, elle mettait un petit peu, mais parce que je pense qu'elle... Elle a terminé sa thèse en 2006, son terrain en 2005, et que du coup, c'était compliqué d'analyser des collectifs comme le collectif d'hommes ou le comité marche du 23 mai. Et du coup, elle mettait un peu ces associations-là dans cette troisième catégorie. Moi, je dis non. Je pense que des gens comme les associations qui sont comme ça dans la valorisation, dans un sens, cette valorisation de la culture, c'est le but en soi. Alors que ces autres associations, elles sont plus dans une forme de lobbying qui peut utiliser la culture, mais dont c'est pas l'objectif nécessairement principal. Quoi qu'il y ait de très grosses différences entre le collectif d'hommes et le CM98, hein, ça c'est encore un autre sujet.
Pour rester sur la comparaison, ou pour revenir sur la comparaison, il y a dû avoir toute une difficulté dans le choix des termes et des concepts, parce que certains termes, Black Studies aux États-Unis, c'est très banal, enfin très banal, très répandu. Mm-hmm. Ici, on n'imagine pas communauté. Enfin, quelles sont les difficultés auxquelles vous vous êtes heurtés, même dans le choix de des concepts?
Par exemple, identité. Ça a été évoqué par Xavier tout à l'heure. C'est vrai que moi, j'étais très marquée par cet article de Brubaker qui veut aller au-delà d'identité. Et en gros, il dit, le problème d'identité, c'est que c'est un mot qu'utilisent à la fois les gens au quotidien et qui est utilisé dans le monde scientifique. Donc, c'est une catégorie analytique et puis c'est une catégorie pratique en même temps. Et il dit, le problème, c'est qu'en fait, quand on dit identité, on veut dire plein de choses. Et du coup, lui, il décide de montrer l'ensemble des usages. Des fois, quand on dit identité, on parle de catégorisation par les pouvoirs publics. Des fois, on parle d'enjeux d'affiliation vraiment très, très personnel. On parle de plein de trucs différents. Donc, lui, il dit, on se débarrasse d'identité. Et puis, on dit clairement ce qu'on est en train de faire. Alors, j'ai suivi ce précepte-là pour le mémoire de DEA, où du coup, je parlais d'auto-compréhension. Comment est-ce que les gens se désignent dans l'espace social? Et puis en fait, ça n'allait pas. Je me suis dit, moi je pense que ce qui est important, c'est de faire le travail dans la thèse puis dans le livre d'expliquer de quoi je parle exactement, mais de ne pas renoncer à ce terme qui est quand même, pour la compréhension générale, quand même, qui est quand même un peu plus facile, mais juste en étant très précis sur ce dont on parle. Mais du coup, ça a impliqué voilà, ce gros travail d'explication et de dire, moi, au final, qu'est-ce que je regarde dans le livre, qu'est-ce que je fais ? Bah, je regarde à la fois le travail de catégorisation par les pouvoirs publics, que ce soit en France et aux États-Unis, comment ça naît, originaire d'outre-mer, comment ça naît ces catégories-là, latinos, hispaniques, portoricains, qu'est-ce qui fait que ça tient ? Pourquoi est-ce que ces termes-là vont tenir et que bah, quand l'État décide de mettre sa patte dessus, bah, ça tient plus qu'une catégorie que moi, Audrey Célestine, j'aurais décidé dans mon coin. Une catégorie telle promue par les pouvoirs publics, par l'État, ça tient. Ensuite, ce qui m'a intéressé, c'est de regarder à un niveau plus méso, de regarder comment des collectifs vont produire une image sociale d'un groupe. C'est-à-dire, voilà, comment est-ce qu'ils vont décider de définir un groupe comme descendant d'esclaves, comme originaire d'outre-mer, comme noir de France. Comment est-ce que ça se produit ? Comment est-ce qu'on produit de la communauté ? On ne le fait pas à partir de rien. On le fait à partir d'une origine commune, mais on va mettre en place des symboles, on va mettre en place des formes d'identité. Par exemple, descendant d'esclaves, je trouve que c'est une catégorie qui est intéressante à analyser. Comment est-ce qu'elle naît ? Comment est-ce qu'elle produit ? Comment est-ce qu'elle continue à vivre et qu'elle devient opératoire dans l'espace public ? Donc, c'était déjà. Et comment ça s'articule avec la manière dont l'État parle des gens et des groupes ? Et puis, à un troisième niveau, ce qui m'intéressait, c'était, mais et après les individus qui sont mobilisés, comment est-ce qu'ils se raccrochent à ça ? Parce que j'ai vu beaucoup de cas dans les associations de gens qui disaient « Oh là là, il me gonfle tel leader, mais c'est pas grave, je reste là parce que quand même, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un truc qui bougeait comme ça. » Ou des gens qui décident de partir. J'ai aussi pas mal d'entretiens avec des gens qui disent « Moi, à un moment, j'en pouvais plus, je suis parti. » Ou par exemple, des gens qui sont très en désaccord avec la manière dont, à un moment, le CM98 va en gros se désigner comme victime de l'esclavage ou les descendants et en disant mais moi je suis pas rentré là pour être une victime. Ils sont rentrés là pour le côté université populaire de l'association, le travail autour de la connaissance et de l'histoire de l'esclavage et puis ça leur va plus cette catégorie là. Il y en a qui décident de partir, d'autres qui décident de rester. Et du coup moi quand je dis identité et je le dis clairement dès le départ, je parle à la fois de la catégorisation par l'État, à la fois de la production d'une image sociale par des collectifs, et de la manière dont des individus vont s'accrocher, se réapproprier, mettre à distance toutes ces choses-là.
Donc, si je comprends bien, il n'y a pas un groupe social unifié, il y aura plutôt une différenciation des différences, des complexifications, des nuances qu'il nous faut intégrer dans cette fabrique. Pour comprendre la fabrique.
Alors, moi, je pense que c'est très important. Et en même temps, et c'est toute la difficulté. Ouais. C'est de dire, c'est important de comprendre toutes ces nuances-là, toutes ces choses-là. Et en même temps.
Sans vouloir... Et en même temps.
Je ne veux pas être macroniste, là, mais... voilà, copyright sur en même temps, maintenant. Mais du coup... ce qui est important, c'est à la fois de rentrer dans tout ça. Je pense que c'est un travail de sciences sociales et que c'est important de rentrer dans ces thèmes-là. Mais il y a plusieurs questions qui se posent. D'une part, pourquoi il y a des identifications qui tiennent ? Hein ? Là, la question, c'est que là, ça tient. Ça peut tenir. Mmh. C'est-à-dire que ben, j'ai beau dire « noir », c'est un label globalisant et il y a des luttes de définition qui est dedans, qui n'est pas dedans. Mais globalement, ça tient. Et ça tient pourquoi ? Ça tient grâce à l'histoire, ça tient parce que les mobilisations sont très réussies, ça tient à cause justement de toutes ces expériences de l'intime qui font que quand on est aux Antilles ou quand on est ici, ça prend à un moment donné un sens, une signification quand on dit noir, quand on dit ceci, quand on dit cela. Du coup, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce que noir, ça tient davantage que... on pourrait décider qu'il y a une communauté de tous les gens qui font 1m62 qui se réunissent et qui se mobilisent ? Ça risque de tenir un peu moins. Et du coup, ce truc de travailler sur la question de l'origine commune, du destin commun, de la trajectoire commune, et le fait de se reconnaître dans ce genre de choses, ça a une puissance évocatrice qui est plus forte. Il y a l'action de l'État également, et puis ça commence et ça prend de plus en plus d'importance dans la vie. Et je pense que c'est important de prendre ça au sérieux, tout comme, et ça j'ai souvent dit, moi j'ai beaucoup rencontré de gens, alors pour le coup pas mobilisés, qui, typiquement, personne d'origine antillaise, qui est arrivée ici dans les années 60, qui est devenu petit fonctionnaire, et qui vous dit ah non, mais toutes ces histoires de communauté, les gens n'ont qu'à bien se tenir, bien se comporter, et moi je ne suis pas un noir, je suis un citoyen français, etc. Ils sont dans un discours extrêmement assimilationniste qui peut être jugé extrêmement sévèrement, mais je veux dire, les gens sont le produit d'une histoire. Donc, ça, je l'entends et je l'accepte, et c'est pas ma vision à moi, mais je veux dire, je trouve ça important de comprendre pourquoi est-ce que des gens ont ce discours-là, même si politiquement on peut être contre, et c'est de comprendre pourquoi, à un moment donné, on a ce type de discours-là, quand on est issu de nos sociétés coloniales, puis post-coloniales, avec le type d'action de l'État qui se fait dans ces territoires-là. C'est normal que des gens parle comme ça, mais c'est aussi normal que des gens soient politisés et politiser cette expérience de migration, cette expérience de d'altérisation qu'elle rencontre notamment dans la migration.
Et est-ce que ça, on pourrait dire que ça tient également parce que ces nuances n'ont pas été assez creusées, la documentation, vous êtes un peu à l'image d'une nouvelle génération de chercheurs qui s'y intéresse, ce n'est pas il n'y a pas un corpus très très ancien sur ces questions-là.
Alors plusieurs choses. Je pense une dernière chose qui est quand même importante et qui explique pourquoi ça tient, c'est que concrètement, moi j'ai beau avoir une vision extrêmement complexe, etc., de mon identité. Non, si je suis un homme noir qui se balade à Gare du Nord et que je me fais arrêter une fois sur trois, concrètement, j'ai beau avoir une vision très complexe de ce que c'est que mon identité, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me fait une assignation racial et qui dit, de toute façon, toi, je vais te contrôler une fois sur deux quand tu passes là. Et du coup, il y a cette expérience-là qui est, quel que soit le niveau de complexité de ma manière de me définir, qui est extrêmement importante dans la vie des gens. Et du coup, c'est pour ça que même si je suis assez sévère avec les collectifs sur lesquels j'ai travaillé, il y a une remarque qui m'a été faite pendant la soutenance de thèse, parce que j'étais encore plus sévère dans la thèse, où les gens... Il y a donc un des rapporteurs de la thèse qui me dit, mais finalement, tous ces gens qui jouent un peu le truc de la respectabilité par rapport au pouvoir public, ils le font aussi parce qu'ils sont stigmatisés au départ. C'est-à-dire, on peut décider qu'on va faire une stratégie qui n'est pas celle-là, on va refuser la respectabilité, on va refuser d'être le bon petit originaire d'outre-mer, machin, nana, mais au départ, ils le font parce qu'il y a un tel stigmate sur ces populations que du coup, ils essayent de redresser le truc dans l'autre sens. Alors moi je pense que c'est un échec comme stratégie politique, mais ça peut faire du sens, ça peut faire sens, on peut comprendre pourquoi est-ce que les gens vont décider d'être dans ce type de rapport là. Sur le corpus, c'est un peu plus compliqué que le corpus est limité. Moi j'avais vraiment l'impression, je vous le disais, hein, que je suis arrivée dans ce centre d'études portoricaines, moi ça m'a désespéré. Hein. Pourtant, normalement, on arrive dans un endroit, on se dit, bon, c'est super, il y a plein de choses. Sauf qu'on se dit, c'est pas possible, je vais pas lire tout ça. Et c'est complètement déséquilibré. Quelqu'un a probablement déjà fait le travail que je veux faire. En fait, pas vraiment. Et puis en faisant un travail après la thèse avec une anthropologue, Madina Regnault, une anthropologue, voilà, qui voulait travailler avec nous, et on a essayé de trouver tout ce qui avait été publié sur la migration des Antillais en France hexagonale et sur l'expérience antillaise en France hexagonale. Publié ou pas, en fait, tout ce qui avait été écrit. Articles, mémoires, thèses, articles scientifiques, etc. On a 45 pages de bibliographie. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette bibliographie, en fait, la plupart des choses sont des choses pas publiées. Donc il y a plein de mémoires dans les bibliothèques universitaires, il y a plein de choses, donc on a cette liste. Il faut vraiment que j'en fasse quelque chose. J'avais commencé un petit travail, et c'est de voir, mais qui a écrit là-dessus? Et en fait, on se rend compte que les gens qui ont écrit là-dessus ont souvent des trajectoires académiques très heurtées. Ils n'ont pas fini leur thèse, ou quand ils l'ont fini, ils n'ont pas eu de poste, ou quand ils ont eu un poste, ils sont devenus experts. Donc ça, c'est un truc qu'on voit très souvent, qu'ils ont commencé. Typiquement, Fred Constant, il est devenu ambassadeur. Claude Valentin-Marie, il s'est beaucoup dirigé il a été là à la HALDE, après il est dans l'expertise, alors après il produit des enquêtes extrêmement importantes, mais il n'a pas eu la carrière. Michel Giraud, il est resté chargé de recherche, et puis il a aussi une carrière un peu... Et du coup, tous ces gens, ceux qui ont fait des articles extrêmement importants, il y a notamment ce numéro de la Revue Européenne des Migrations Internationales en 87, numéro épuisé, sur les Antilles en France, je ne sais plus si c'est en France ou en Europe. En tout cas, il y a des articles de Giraud, de Constant, etc., qui sont super. Mais voilà, il y a ce numéro-là, et il n'y a pas la suite, parce qu'en 87, il y a quand même plein de trucs qui se sont passés depuis. Et il n'y a pas une monographie à ce jour, il n'y a pas une monographie du Bumidum.
C'est ce que vous dites, oui.
Il y a... Il y a eu les documentaires, il y a le roman graphique de Jessica Oublié, il commence à y avoir quelques articles, et donc j'espère que...
Quelques documentaires.
Voilà, et puis bon, il y a de la recherche, on fait, et puis les quelques travaux universitaires qui ont été faits dessus se sont beaucoup fondés sur les rapports du Bumidome et pas sur les archives qui restent du Bumidome et qui sont là, qui ont été préservés notamment grâce à la démographe Stéphanie Condon, au moment où on voulait les détruire, et donc tout n'a pas été détruit, ça a plutôt été... garder
préserver.
Assez, donc il n'y a pas du tout tout, hein. il y a eu un choix qui a été fait, un échantillonnage des archives qui sont à Pierrefitte et sur lesquelles on travaille avec un groupe de collègues en espérant produire un certain nombre d'ouvrages sur le Bumidome, mais c'est fou qu'il n'y ait pas une monographie du Bumidome là comme ça en solide qui existe. Alors il va y avoir en 2000, j'espère que d'ici 2022 on aura réussi à faire quelque chose parce qu'il y aura quand même les... Attendez, du coup, ce sera les 60 ans. Ouais, c'est ça, les 60 ans du Bumidome.
Je note.
Donc,
J'ai une dernière question pour vous, avant de laisser la parole aux personnes qui sont venues vous écouter. C'est juste sur la prise en charge de cette complexité de l'identité, des nuances absolument nécessaires pour comprendre ou pour appréhender les personnes originaires d'outre-mer. Est-ce que vous pensez que les derniers événements, que ce soit, comment ils ont appelé ça, les états généraux de l'outre-mer, ou bien la mise en place d'un délégué interministériel dans l'Hexagone, est-ce que ce sont des chemins de prise en charge un peu de cette fabrique? Au contraire,
alors,
pas du tout, non? Ou bien
j'essaie de... faudra couper au montage.
Non, c'est direct.
Non, alors, plusieurs choses. Moi, la délégation interministérielle, je l'analyse vraiment. Parce qu'elle est... Enfin, c'était fou. Parce que c'est le truc qui s'est monté pendant que je faisais ma thèse. Donc, c'est le truc, je l'ai vu. J'ai vu le truc sortir de
terre. C'est quoi, 2012, 2013
2007.
2007.
C'est donc, Sarkozy.
Nicolas Sarkozy.
C'est Sarkozy. Et c'est clairement...
Pendant le débat sur l'identité nationale.
Non, c'était un peu avant. C'était l'aboutissement des mobilisations du collectif d'hommes. En gros, ça a été fait. C'était avant le LKP. C'est-à-dire, c'est vraiment Karam qui quitte le collectif d'hommes 3 mois plus tard, dirige la campagne de Sarkozy pour l'outre-mer et qui dit, voilà, il y a des problématiques spécifiques aux ultramarins, notamment en matière de discrimination.
La mémoire et la discrimination.
Et c'était vraiment la question... Il y avait discrimination, et il avait fait une petite alliance à ce moment-là avec Romana. Mais donc, il y a vraiment la question de la discrimination. Et cette discrimination, elle est spécifique aux gens d'outre-mer. C'est pas la même
que
pour les autres. Et du coup, il faut qu'il y ait une instance. Donc, il y a 2007, bon, ça, je le simplifie vraiment, mais j'ai fait un chapitre d'ouvrage sur l'émergence de la délégation. Et moi, j'analyse vraiment comme c'est le succès de la mobilisation du collectif d'hommes, en particulier de Karam. Je pense pas que ce soit tellement... Enfin, je pense que ça a surtout achevé un processus qui existait depuis un moment de construction d'une spécificité des problèmes des dits originaires d'outre-mer. Et c'est une étape dans la construction du groupe, les originaires d'outre-mer. Donc c'est vraiment un... Voilà, c'est quelque chose qui arrive à ce moment-là. Pour ce qui est des assises ou des états généraux ou des diverses consultations, moi je trouve que... Voilà, que ce sont globalement des tentatives d'établir des diagnostics qu'on connaît déjà. Enfin voilà, le problème, je pense que les états généraux post-mobilisation de 2009, ils ne servent pas à grand-chose. Les choses, on les sait, le diagnostic, on le connaît. Les assises, alors quant aux assises, les dernières assises, la valeur ajoutée par rapport aux états généraux, si ce n'est de dire, ah ben depuis les états généraux, en fait, ça fait presque 10 ans qu'on n'a pas fait un truc, si on faisait un autre truc. Mais pour moi, les rapports qui en sortent ne sont pas de la connaissance en plus, qui permettrait de comprendre, ben, du coup, qu'est-ce qu'on construit pour la Martinique, la Guadeloupe, les autres territoires, à l'horizon 2030, l'horizon 2040, c'est quoi le projet politique ? On est toujours dans des espèces de, bon, établissons un diagnostic, mais quel est le projet politique pour ces territoires ? C'est jamais la question qui est posée. Et du coup, pour moi, c'est problématique. Donc, c'est pas mal que ça existe, les états généraux, sauf que d'une part, les acteurs qui sont mis en avant sont globalement, enfin, les mêmes que ceux qui interviennent au nom de l'outre-mer de manière générale, et notamment au moment des élections. Et sont voilà, une manière de s'interroger, se réinterroger, se réinterroger sur des problématiques déjà bien connues, pour lesquelles des collectifs proposent des solutions qu'on peut éventuellement discuter. Mais je pense que l'étape d'après, c'est de dire, bon ben, on arrête de faire du diagnostic. Il y a une maladie, on sait, c'est pas la peine de refaire un diagnostic, ça va pas se soigner tout seul comme ça.